bien, nous allons débuter les matins avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Michel Rubirola quitte ses fonctions de maire de Marseille à l'avance des raisons de santé pour expliquer sa démission. Michel Rubirola avait été choisi pour rassembler la coalition de gauche. Son départ déçoit ceux qui nourrissaient des espoirs pour la gauche à la prochaine élection présidentielle.
Alors que les fêtes de fin d'année se préparent en pleine crise sanitaire, comment s'organisent les grossistes ? De Rungis, nous prendrons des nouvelles de ce grand marché international.
L'État italien rembourse 10% du montant des achats quand ils sont effectués par carte bancaire grâce à une application, de quoi inciter les Italiens à consommer. Explication de notre correspondant à Rome.
Joe Biden espère bien obtenir le contrôle du Sénat américain. Le président élu des États-Unis était hier en Géorgie pour soutenir deux candidats démocrates.
Et après ce journal, la question du jour ce matin, Guillaume.
Eh bien, on va évoquer la vaccination en EHPAD, comment établir le consentement chez les personnes vulnérables. Je poserai la question au docteur Michel Lévy-Soussan.
Des difficultés liées à sa santé l'empêchent de donner 300% de son temps. Son énergie est limitée. C'est ainsi que Michel Rubirola a expliqué hier pourquoi elle démissionnait de ses fonctions de maire de Marseille moins de 6 mois après son élection. La liste d'union de la gauche emmenée par cette médecin écologiste, le printemps marseillais, avait mis fin à 25 ans de règne de la droite à Marseille. Cette union a surtout nourri beaucoup d'espoir en vue de 2022. Espoir désormais un peu douché par cette démission. Rosalie Lafarge.
Pour les opposants au printemps marseillais, le constat est évident. Claire Pitola est députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône.
Ce printemps marseillais nous démontre aujourd'hui que cette alliance finalement trop large, qui ne respecte pas des valeurs communes, ne peut pas se faire. C'est ça qui fait que cette élection elle a été volée aux Marseillais. C'est qu'il y a eu quelque part des associations contre nature pour une volonté purement électorale.
Faut-il pour autant abandonner tout espoir de rassemblement à gauche pour 2022 ? Pas sûr.
C'est pas la preuve que ça marche pas. C'est la preuve qu'on ne s'invente pas à certains postes de la République.
Le socialiste marseillais Patrick Menucci.
Donc la leçon, si la gauche veut gagner et qu'elle se rassemble, il faut que la personnalité qui soit à la tête ne soit pas le plus petit dénominateur commun, mais en tout cas quelqu'un qui soit en capacité de gagner. Et il ne peut pas y avoir un rassemblement autour de l'ectoplasme pour une raison. C'est que l'ectoplasme peut être utilisé pour gagner, mais comme il ne s'est pas géré, évidemment, les tensions immédiates se mettent en mouvement et il se passe ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un désastre.
Pas de désastre officiellement pour les cadres de la gauche. Julien Bayou chez Les Verts vante la dynamique de changement enclenchée. Olivier Faure au PS insiste sur le collectif élu pour un projet. Le conseil municipal prévu lundi à Marseille permettra peut-être d'en juger.
Michel Rubirola démissionne et souhaite inverser les rôles avec son premier adjoint socialiste, Benoît Payan, qui deviendrait donc maire à son tour. Sa décision, en tout cas, risque d'affaiblir l'union de la gauche, estime Vincent Gesser, enseignant à Sciences Po, chercheur au CNRS et fin connaisseur de la vie politique marseillaise.
En effet, Marseille a été perçue par beaucoup d'observateurs nationaux et locaux comme une ville pilote d'un nouveau rapport aux politiques plus ordinaire et plus citoyen, et donc a créé une sorte d'horizon d'attente en fait pour la gauche dans son ensemble, le Parti socialiste, les gens de gauche indépendante qui en a un peu ras-le-bol de ce qu'on appelle la politique politicienne, et Marseille était perçue un peu comme une première étape de ce renaissance de la gauche, et la démission de Madame Rubirola porte un coup quelque part à cette expérience pilote de reconquête du territoire français par cette gauche qui est une gauche plus indépendante, moins d'appareil, moins professionnelle et moins, entre guillemets, politicienne.
Tandis qu'à gauche, cette démission interroge. À droite, l'organisation d'une éventuelle primaire divise. Le débat devrait s'inviter au bureau politique du Parti Les Républicains aujourd'hui. C'est le patron des sénateurs LR qui l'a relancé la semaine dernière. Bruno Retailleau en souhaite une l'an prochain. Il ne cache plus son envie d'être candidat à la présidentielle de 2022. Mais des voix s'élèvent pour dire non. Le député et numéro 3 du parti, Aurélien Pradier, est opposé à cette idée et rappelle que la précédente primaire fut quelque peu mouvementée.
Je pense que la primaire, c'est une anomalie. C'est une manière de se rassurer en trouvant un machin qui nous permet de sélectionner les uns et les autres avec des modes de départage plus ou moins alambiqués auxquels personne ne comprend rien d'ailleurs. Et au final, on oublie une chose essentielle, c'est de s'adresser aux Français.
Est-ce qu'il y a encore aussi dans ce que vous dites une part de traumatisme de ce qui s'est passé en 2016-2017 ?
Sûrement. Vous savez, ce qui fait qu'on peut se relever, lorsqu'on essuie des échecs, c'est d'être capable de les regarder droit en face. On ne peut pas ignorer qu'on a essuyé un échec considérable lors de l'élection présidentielle. Et que oui, les affaires y ont pesé pour beaucoup, mais que sûrement la primaire, avec le vent de division qu'elle a semé, tout cela a pesé dans l'échec présidentiel. Lorsqu'on a essuyé des échecs, on se remet en question, on ne reproduit pas les mêmes erreurs.
Aurélien Pradier, il répondait à Solène Cressant. L'objectif est de jouer la carte de la transparence totale, assure Matignon. Le Premier ministre Jean Castex présentera cet après-midi la stratégie vaccinale du gouvernement contre le Covid-19 à l'Assemblée nationale, avant d'en débattre ensuite devant le Sénat. Chaque Français pourra se faire son idée, a expliqué le président de l'Assemblée. Un peu plus de 59 000 personnes sont mortes du Covid-19 dans notre pays depuis le début de l'épidémie. Conséquence de cette crise sanitaire et des mesures de restriction en vigueur, les restaurants font partie des établissements qui ne sont toujours pas autorisés à accueillir du public. Le marché d'intérêt national a pris un coup, mais une majorité d'entreprises tiennent bon à l'approche des fêtes de fin d'année, selon Stéphane Layani, président du marché de Rungis.
J'ai le sentiment que pour deux tiers des entreprises de Rungis, le deuxième confinement se sera mieux passé que le premier et que d'une certaine manière on arrivera à rattraper, on ne fera pas une très grande année, mais on rattrapera l'année. Évidemment, pour ceux qui servent la restauration, c'est une autre histoire. Là, c'est Maris, l'autorité gestionnaire du marché, a consacré 4 millions d'euros pour aider ces entreprises et on fera la même chose l'année prochaine, de façon à ce qu'ils puissent passer cette crise du coronavirus sans trop d'encombre. D'ailleurs, on a beaucoup moins, c'est une question, on a beaucoup moins de défaillances cette année que l'année dernière. Les défaillances ont chuté de plus de 45% par rapport à l'année dernière, ce qui prouve d'une certaine manière que toutes les mesures qui ont été prises ont été efficaces. Mais évidemment, c'est peut-être qu'on recule pour mieux sauter, mais on verra. Je pense que pour l'instant, on a réussi à tenir le choc et on va préparer plutôt dans la bonne humeur et dans l'effervescence les fêtes de fin d'année. On attend de très très belles fêtes. Voilà.
Propos recueillis par Anne-Laure Jumet qui s'est rendue à Rungis pour France Culture. Comment se prépare Rungis à une semaine de Noël? C'est le reportage de la rédaction que vous entendrez à 7h25.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. En pleine crise économique, le gouvernement italien incite la population à consommer.
Oui, à lutter dans le même temps contre l'évasion fiscale grâce à une application et à condition qu'ils payent leurs courses par carte bancaire. L'État rembourse aux consommateurs 10% de la note. Cette appli est disponible depuis une semaine. À Rome, Bruce de Galzin.
Carlo sait déjà combien il va être remboursé. Pour l'instant, il totalise 43 euros sur l'application qu'il a téléchargée la semaine dernière.
Il y a le détail des transactions que j'ai faites. À chaque transaction, je récupère 10%. Mais au-delà de 150 euros, le cashback est de 15 euros, toujours. Donc même si je fais 300 euros de dépenses en une seule fois, j'ai 15 euros. Et au maximum, je peux gagner 150 euros d'ici le 31 décembre.
Et Carlo n'a pas eu de problème pour télécharger l'application, pourtant victime de son succès les trois premiers jours. En une semaine, près de 5 millions de personnes l'ont téléchargé. Et quand l'application Immuni pour tracer les cas de Covid a mis 3 mois à atteindre 6 millions de téléchargements. Alcide vient de s'acheter une chemise Via del Corso, la rue commerçante de Rome. Il avait déjà l'habitude de régler par carte. Il a donc téléchargé l'application et compte bien récupérer 150 euros sur son compte bancaire d'ici la fin du mois. Mais il s'agace des injonctions paradoxales du gouvernement.
C'est complètement contradictoire. On ne peut pas demander aux gens de sortir pour dépenser et dans le même temps de rester à la maison car il y a trop de monde dehors. Il faudrait donner des horaires ou peut-être autoriser seulement une ou deux personnes à sortir. Mais franchement, on ne peut pas demander de dépenser et de rester à la maison, surtout si on doit dépenser dans les magasins.
Car en effet, le cash ne fonctionne pas si l'on achète sur Internet. En revanche, coiffeur, restaurant, pharmacie ou encore garagiste, partout, ce sera Noël avant l'heure.
L'Union européenne a présenté hier son plan pour tenter de mettre fin aux dérives des géants du numérique accusés d'abuser de leur pouvoir. Google fait partie des entreprises visées. Le groupe s'est dit inquiet. Dans un communiqué, il explique que les propositions de la Commission européenne semblent, je cite, cibler spécifiquement une poignée d'entreprises et rendent plus difficile le développement de nouveaux produits afin de soutenir les PME en Europe. Comment l'Europe peut-elle réguler les GAFAM? On en parlait hier matin, c'est à réécouter sur franceculture.fr, rubrique actualité. Après le président russe Vladimir Poutine, le brésilien Jair Bolsonaro a félicité à son tour Joe Biden. Sa victoire à l'élection présidentielle américaine a été confirmée lundi par les grands électeurs. Le président élu des États-Unis sera investi fin janvier. En attendant, Joe Biden repart en campagne. Le démocrate s'est déplacé en Géorgie où dans 3 semaines vont se tenir 2 élections partielles pour le Sénat, jusqu'ici contrôlées par les Républicains. Si les 2 candidats soutenus par Joe Biden l'emportent, alors la Chambre haute passera sous contrôle démocrate. Le début de son mandat serait alors bien plus facile. Sur place à Atlanta, Grégory Phillips.
Let me start with 2 simple words.
Joe Biden est de retour en Géorgie, cet État du Sud qu'il a gagné le 3 novembre, première fois qu'un candidat démocrate l'emportait depuis 1992, Bill Clinton à l'époque. Mais si Biden remonte sur l'estrade, cette fois c'est pour soutenir le pasteur Raphaël Warnock et l'ancien journaliste John Ossoff qui tous les deux briguent un siège au Sénat. Le meeting est organisé sur le parking d'une ancienne usine, en mode drive-in, les militants démocrates abordent leur voiture.
Oh God, I'm so excited for our new president.
Oh mon Dieu, je suis tellement contente de voir ce nouveau président, dit Betty, une Afro-Américaine de 66 ans. Tous les regards sont braqués sur la Géorgie maintenant, parce qu'il y a 2 sièges au Sénat à prendre. Et si les démocrates l'emportent, alors on contrôlera le Sénat. Ce sera possible de faire passer des lois, et le pays en a vraiment besoin. Le pari est audacieux. Les 2 républicains, sénateurs sortants, David Perdue et Kelly Loeffler, sont favoris. Mais Biden veut y croire, et il lance cette appel aux électeurs de Géorgie. Reprenez notre démocratie en main. Envoyez-moi ces 2 hommes au Sénat et alors on pourra changer la vie des gens d'ici. Sortez et allez voter. Le vote anticipé a débuté ce lundi, élection le 5 janvier.
Et nous reparlerons des États-Unis dans les matins de France Culture. Joe Biden sur les ruines du Trumpisme. C'est à suivre à partir de 7h40 avec vos invités, Guillaume Erner. Le temps sera plus agréable qu'hier avec des éclaircies presque partout en France, voire même un franc soleil dans le sud-est. Il risque de pleuvoir en Normandie, sur la façade atlantique jusqu'à La Rochelle. Seul le département des Landes est encore en vigilance orange pour des risques de crue. Météo France prévoit cet après-midi 8 degrés à Strasbourg, 11 à Rennes, 13 à Toulouse et jusqu'à 15 degrés à Marseille, Guillaume.
Eh bien, merci beaucoup, Margot Delpierre. Dans quelques instants, le reportage de la rédaction vous emmènera au marché de Gros de Rungis. Ça sera vers 7h25. Et dans quelques secondes, on va évoquer la vaccination des personnes vulnérables.